Ce que je vous propose, d'ailleurs, sur la suggestion de Michel Prince, qui voulait que nous reprenions une synthèse de ce qu'on a vu la dernière fois, pour se remettre dans le sujet, et ensuite on décidera si on continue directement dans le texte, si on prend une autre Mishnah d'un autre chapitre, comme vous voulez. Alors je crois que le meilleur des procédés, c'est de me dire si vous avez d'abord des questions, soit générales, soit de détails, que je puisse organiser cette récapitulation. Vous arrivez à m'entendre, comme d'habitude, c'est que vous avez un climat spécial. Hein? Bien. Tout le monde était là la dernière fois? Oui, j'ai demandé peut-être quelqu'un à une feuille de papier blanc. Non, c'est dommage. Première question préliminaire, je voulais vous poser. Est-ce que, puisque nous avons décidé un peu arbitrairement de 10h à midi, est-ce que l'heure vous arrange ou vous préférez plutôt ou plus tard? Vous êtes sage, d'après moi. Plus tard. Ça veut dire 10h30. Oh non, c'est tard, 11h.
C'est tard, oui.
Il vaut mieux que ce soit 10h30 et puis que nous terminions donc à 12h30 pile. Alors, je vous demandais d'ailleurs, je le rappellerai à la fin de la séance, que 5 minutes après l'heure, on ferme la porte, on puisse être tranquille. Oui. Tout arrive. Toi, il y a des problèmes. Alors écoutez, je vous écoute. On va passer la première partie du cours à une mise au point que nous avons étudié le mois dernier. Et puis on avancera dans la suite. Tiens. J'ai une question.
Oui, bien sûr. Alors j'ai donc réfléchi que c'était deux fois pour en particulier avoir une sentiment finalement de référence. On peut poser la question suivante de savoir quand est-ce qu'apparaît la première référence, c'est là qu'il s'allait.
Puisque l'exemple qui est donné, c'est l'exemple de Hana, Kobe Droge, mais on s'était demandé à quel moment à quoi ça correspondait. Et on avait réfléchi, on s'était demandé à quel moment ça apparaissait pour la première fois, quelle était la situation.
Si j'ai bien compris, la question c'est dans le récit de la Bible.
Dans le récit de la Bible, à quel moment apparaît ce.
C'est la première fois, c'est Abraham, mais je crois que j'y avais fait allusion.
Oui, allusion.
Est-ce que. Ah, mais c'est vrai, la bibliothécaire n'est pas là.
Oui, j'ai la référence ici. Hein.
D'accord, mais je voudrais voir la Gemara de Bava Kamma. Je voulais demander à la bibliothèque une Gemara de Bava Kamma. Bava Kamma. Oui, c'est à propos de l'histoire entre Abraham et Abimelech. Haché Veshetaïch Kina Lijou, Vehu It Palel. Baradecha ou Birlalecha, la fin du verset. Veu it palel.
Kina vivu, ve it palel, baradecha.
Baradecha, ze.
Bachia, ve imelecha, mechiv, zakimot, tamuz. Et alors, évidemment, la deuxième fois, c'est au verset 17, et verset plus loin. Va it palel, Abraham, el haelokim, va yerpa elokim, et abimeler, ve ishto, ve amrotav, va yele.
Vayeled ou Vayoled?
Non, Vayeled.
Vayeled.
Vayeled où? Vayeled.
Et d'autre part, vous avez aussi un midrash qui indique que le premier homme qui a prié, c'est Abraham, mais pas en relation avec cette situation, et pour demander la vieillesse. Alors là, c'est en relation avec la paracha de Toldot. Je vais vous donner le verset. C'est Ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham holid et Yitzhak. Vous verrez dans le Midrash Rabbah, à propos de ce verset, je vais traduire immédiatement, que la difficulté dans le verset, c'est que le texte entreprend, on va tout de suite voir la référence, le texte entreprend de nous dire quelle est la descendance de Yitzhak. Elle est Toldot Yitzhak ben Abraham. Je vous mets ça au tableau.
Oui, bien.
Abraham. Et la fin du verset dit Abraham en lit de Yitzhak. Alors quelle est la difficulté du verset? Donc elle est Toldot Yitzhak ben Abraham. Voici les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham au lit de Yitzhak, Abraham a engendré Yitzhak.
On a pu dire Yitzhak au lit de Yitzhak est retenu Sarah, Noïm et Rivka, etc. On a pu dire que Yitzhak a eu Yaakov et Esav directement, ils n'ont pas passé par Abraham.
C'est ça, on aurait dû dire Yitzhak au lieu d'être Esav et Yaakov puisque c'était dans l'ordre.
Et Rachid est obligé d'intervenir pour dire Yaakov et Esav,
Ah, Amourim Abarachal, ok.
Et Yaka résout la difficulté, c'est un peu élégant.
Oui, mais d'abord on va prendre ce midrash qui relie à votre question. C'est... Si vous voulez, d'abord, le thème général de ce problème, c'est de savoir quel est le sens exact de Toldot dans le verset. Est-ce que ça signifie histoire ou est-ce que ça signifie engendrement? Puisque vous savez qu'en hébreu, le mot de Toldot a les deux sens, ce qui implique d'ailleurs toute une conception de l'histoire. On a étudié cela à un des séminaires, d'ailleurs, l'année dernière, je pense. C'est-à-dire, le verset entreprend de nous dire la généalogie d'Yitzhak, et qui est nommé Yitzhak ben Abraham. Et en fin de compte, le verset semble revenir sur lui-même et dit Abraham au lit de Yitzhak. Alors je traduis Abraham au lit de Yitzhak. Abraham, comment vous traduisez Abraham au lit de Yitzhak. Ben oui, et prenez un peu en grammaire. Quelle est la forme? Au lit. C'est un effrigue. Donc il faudrait traduire Abraham a fait engendrer Isaac. Et alors sur, je ne sais pas, je ne me souviens pas si c'est ce Kliyakar.
C'est Kliyakar, c'est exactement cette façon que Kliyakar explique.
Et alors donc si c'est le Kliyakar, j'ai pas le sujet en tête, mais si c'est le Kliyakar, alors il continue à expliquer de la manière suivante. Voilà ce que veut dire Rashi. Les engendrements de Yitzhak fils d'Abraham, c'est Jacob et Esaü dont on parle dans cette paracha, et de même que Abraham a eu lui aussi un tzaddik et un racha. De même, Isaac a eu un tzaddik et un racha, ce qui est l'analogie indiquée par le texte. Alors, un peu plus profondément, Abraham a aidé Isaac dans son engendrement. C'est-à-dire, Abraham a fait enfanter Isaac. Abraham a fait enfanter. Roli. Okay? Sinon, il y aurait Yalad. Et c'est clair, en hébreu. C'est-à-dire, si le pshat voulait dire que. Sinon, ce serait une répétition. On vient de dire Isaac, fils d'Abraham. Et le texte revient sur lui-même apparemment et dit « Et Abraham a enfanté Isaac ». Il y aurait répétition pure et simple. Quand il y a un cas de répétition de cet ordre, surtout que le renseignement lui-même, l'information qui est donnée dans le verset, est déjà connue précédemment, donc les deux parties de la répétition doivent être expliquées. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans le Midrash Rabbah. Nous aurons toute une série de Midrashim pour expliquer pourquoi il faut dire « Yitzhak ben Abraham »,« Isaac fils d'Abraham », on sait déjà que Isaac est fils d'Abraham, et toute une série de midrashim pour la fin du verset, pourquoi le verset dit Abraham voli de Yitzhak. Alors je prends le début, les midrashim sont très simples, c'est pour distinguer Yitzhak de Ishmael. Ishmael est fils d'Abraham, alors que Yitzhak est fils d'Abraham. Là vous verrez la ligne des midrashim à ce sujet. Sauf, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont assisté il y a deux ans peut-être, nous avons étudié la différence entre Ishmael et Esav, et à la fin de sa vie, Ishmael sera appelé fils d'Abraham. Vous rappelez ça? Mais pendant tout le temps de sa vie, il est appelé fils d'Abraham. Et puis, j'en arrive au problème, parce que dit Rashi, la suite de Rashi, lorsque Isaac est né, personne ne voulait croire qu'il était le fils d'Abraham. On savait que Sarah était stérile tant qu'elle était. Stérile n'étant pas d'ailleurs le mot exact. Hein, stérile, ça voudrait dire incapable d'enfanter, mais puisqu'elle a enfanté, c'est qu'elle n'était pas stérile. Mais elle était
barrée.
Je sais pas ce que ça veut dire, mais d'accord, mais ça doit être un mot qui a un sens récent, parce que je connais pas ce sens-là. Mais je veux dire en français. Mais je devine ce que je veux dire. Mais disons empêcher. Okay? Écoute, empêche. Donc empêcher, comme dans le sens de ce que le verset indiquera à propos de Rachel, lorsque Rachel aussi est empêchée d'enfanter, qu'elle se plaint à Jacob, Jacob dit Atachat Elohim Anochi Asher Mena Achal Aledet. que c'est Dieu qui l'empêche d'enfanter tant que la matrice n'est pas prête à donner l'étape suivante. Il y a un haïkou, c'est-à-dire un empêchement. Oui, nous parlerons de ça dans la suite. Que personne ne voulait croire que Isaac est vraiment le fils d'Abraham. Et nous verrons d'ailleurs à quel thème cela correspond dans l'histoire de l'antisémitisme. C'est le fait qu'on impute toutes les valeurs propres à l'identité d'Israël à une autre paternité que celle d'Israël lui-même. Et en particulier, si vous voulez, le principe que prend la critique biblique, chaque fois qu'elle traite d'une valeur propre à la Bible des Hébreux, alors elle cherche une paternité ailleurs. On n'arrive pas à croire que Isaac soit le fils d'Abraham. Vous voyez quel est le thème qu'il y a là. C'est tellement systématique qu'on ne se rend pas compte du caractère systématique de cette attitude. Il n'y a rien d'original dans l'histoire juive, enfin dans l'histoire hébraïque. Tout vient d'ailleurs. Vous voyez à quoi je me réfère. C'est très exactement de cela que parle ce midrash. Je pense que c'est clair. Alors, donc, le midrash explique pour pouvoir dévoiler, rendre évident plus exactement qu'Isaac est bien le fils d'Abraham et pas le fils d'Abimelech. Alors, Isaac est né comme sosie d'Abraham. Ce qui fait qu'on ne distinguait plus entre Abraham et Isaac. Donc, à la fin de sa vie, Abraham va prier pour avoir la vieillesse de telle sorte que l'apparence du visage d'Abraham change de l'apparence du visage d'Isaac. Vous suivez le raisonnement, ensuite nous allons voir quelle est la signification. C'est-à-dire, Isaac et Abraham sont deux tzadikim de nature différente. La modalité, la midda de tzadik d'Abraham et celle de Yitzhak sont différentes. Et voilà qu'ils apparaissent comme sosies. Il y a donc une raison pour laquelle ils apparaissent comme ceci. C'est le fait qu'on nie a priori la paternité, enfin, il faudrait dire la filiation. On ne veut pas admettre que Isaac soit fils d'Abraham. Donc il faut qu'Isaac ressemble à Abraham. Mais si Isaac ressemble trop à Abraham, il ne peut pas y avoir distinction des valeurs de celles que représente Abraham, de celles que représente Isaac. Alors ici, la Midrash nous donne quelque chose d'assez profond. Et tout à l'heure, rappelez-moi que je reviendrai sur une définition de la profondeur, qui d'ailleurs se rattache un peu à notre sujet. Et donc Abraham a demandé la vieillesse. Ce qui fait que depuis, on relie la mida d'Abraham à la modalité de la vieillesse et la mida de Yitzhak à la modalité de la jeunesse. C'est-à-dire la modalité d'Abraham, c'est la modalité de la bonté, de la générosité, de chesed, qui est la vertu du vieillard, alors que la mida tadim, l'intransigeance, l'entièreté, est rattachée à la vertu de l'adolescent. Vous voyez comment les thèmes s'organisent.
Il y a vraiment une thème, parce qu'il y aurait un double en Abraham, donc il faut que son fils, Isaac, ressemble à Abraham. Ensuite, il y a un double entre le père et le fils, donc encore une fois, il y a une.
C'est-à-dire, s'il y a trop d'analogies, je veux dire, s'il y a trop de. Plus qu'analogies, Chavé.
Comparaison ?
Non, plutôt identité. Mais là, nous sommes plus que ressemblance.
Similitude.
S'il y a trop de similitudes entre la vertu d'Abraham et la vertu d'Isaac, l'histoire s'arrête. Pour que l'histoire se fasse, et il faut qu'il y ait décalage entre l'identité d'Abraham et l'identité de. Nous voyons, si vous voulez, le cycle de l'identité d'Abraham se développer et entrer dans son propre passé pour laisser la place à celui de Isaac, ce qui est d'ailleurs l'objet de la paracha de Toldot, dans toute cette histoire de Toldot. Or, il y a une nécessité, je reviens un peu là-dessus parce que c'est important, il y a une nécessité que Isaac ressemble à Abraham. Et d'ailleurs, tout le miracle de ces engendrements, c'est que le type de tzadik que sera Isaac soit précisément le fils d'Abraham. La difficulté, ce n'est pas qu'Abraham engendre Ishmael. La Midat HaChesed peut engendrer la Midat HaChesed indéfiniment. Mais la difficulté, c'est qu'Abraham engendre Isaac, que la Midat HaChesed engendre la Midat HaDin. Est-ce que c'est bien clair? Et on ne croira jamais que la Midat HaDin est fille de la Midat HaChesed. Alors il faut qu'elle se ressemble. Mais si elle se ressemble, l'histoire est bloquée. Il faut donc qu'elle se différencie. Et c'est pourquoi, c'est le Midrash que j'avais cité, le premier objet de la prière, la première fois dans l'histoire, c'est que... Abraham a demandé, dans sa vieillesse, a demandé la vieillesse, c'est-à-dire l'apparence de la vieillesse. Ceci est d'ailleurs se réfère aussi à la forme d'autres versets, pourquoi il était nécessaire d'indiquer qu'Abraham était devenu vieux dans d'autres textes. Alors c'est bon. Si je me souviens bien, toujours dans la ligne de ce midrash, la deuxième prière a été faite par Isaac pour demander l'enfantement de Rivka, et la troisième par Jacob pour demander la maladie. En ce sens que jusqu'à Jacob, on ne mourait pas de maladie. Il faut bien comprendre ce qu'il y a dans ces midrashim. Il s'agit de l'identité Israël. Okay? Et on ne mourait pas de maladie, on n'était pas averti que le moment était venu de quitter la vie. La midrash explique qu'on mourait dans un éternuement. Je ne sais pas si vous avez entendu ces midrashim.
C'est pas noir pour ça?
Et ça, je ne vois pas. Et que la prière de Jacob a été demandée de demander la maladie. Ça se réfère aussi à la fin de la parasha de Vayikhi, où le texte nous indique que Yaakov était devenu malade. Pourquoi on a besoin de savoir cela? Alors d'où le midrash le consiste. Enfin, je referme toute cette parenthèse. En fait, la première situation de prière qui est indiquée par le texte, pour répondre à ta question, c'est Abraham. Pourquoi c'est important? C'est important pour la relation qu'il y a dans le verset lui-même entre la capacité de prophétie et la capacité de prière. Alors retrouvez bien la référence du verset. Hashem eshetaish ki navi hu vehu itpalel ba'alem. Il est prophète et il priera. Est-ce que c'est clair? Alors, quelle est la signification de cela? Il me semble que j'y ai fait allusion la dernière fois. Le lien entre Dieu et l'homme, selon l'enseignement de la Torah, n'est dévoilé que par la parole. Vous rappellerez surtout le contexte à propos de la révélation du Sinaï, lorsque la Torah exhorte Israël, vous n'avez rien vu, vous avez entendu. Shema Israël. Hein? Zulati kol, seulement la voix. Ça ne veut pas dire que les prophètes ne sont pas capables de vision. Et là, il est appelé José, celui qui voit, hein? Le voyant. Mais l'essentiel de l'expérience et de la capacité de prophétie, c'est la parole. C'est bien clair. D'ailleurs, vous référez à l'étymologie du mot nevoa. Le verset qui est cité à ce sujet, c'est un verset d'Isaïe, Boré, Niv, Sfataï. Qu'est-ce que signifie Niv? Niv.
La parole? Expression.
Oui, expression, la parole. Boré, Niv, Sfataï. Alors le verset dit, Boré, Niv, Sfataï. Shalom, shalom. La suite. La Rachok, la Karor, Amar Hashem, ou Fatim. C'est un verset qui est cité à propos de la Tfila, mais nous allons le voir dans une des références. Allez, vous n'avez pas cité cela, mais donnez-moi la Gemara, je... Bien, alors il y a donc une identité entre l'expérience de prophétie et l'expérience de prière. Je pense que la manière la plus simple de le comprendre, c'est dans la prophétie, la parole va de Dieu à l'homme, c'est l'homme qui parle mais inspiré par Dieu, et dans l'expérience de la prière, la parole va de l'homme à Dieu. Je pense que vous avez signalé cela. Il y a cinq livres des psaumes qui correspondent aux cinq livres de Moïse. Voilà, je vais vous donner une référence, peut-être nous l'étudierons dans un des jours de la semaine, quand on vous dira les textes. Vous l'avez à la fin du chapitre 5.
Sur Brachot.
Dans Brachot, à la fin du chapitre 5, la dernière Mishnah du chapitre 5. Je vais vous lire la Mishnah. Et d'ailleurs, le verset que je viens de vous citer, c'est dans Isaïe, chapitre 57. Voilà ce que dit la Mishnah. Ça y est, tout le monde a... C'est pas ce texte-là, mais enfin...
Arrêtez, là, ce texte-là.
Non, distribuez tant qu'il y est, rapidement.
Merci.
Voilà ce que dit la Mishnah. Montre-moi les choses. Oui, non, c'est la Mishnah. Voilà. Hamid Palel Veta, Siman Rar, l'autre. C'est-à-dire, celui qui prie, non, on n'avait pas les textes des yeux, mais celui qui prie et se trompe dans sa prière, Siman Rar, l'autre, ça veut dire c'est un mauvais signe pour lui. Qu'est-ce que. Un mauvais signe pour lui. Siman Rar, l'autre. L'eau, la mettre valve.
Mais de quelle façon
l'erreur ? Une erreur de prononciation. Enfin, l'exemple classique que donne l'enseignement, c'est en général, et si nous nous situons en dehors de la prière officielle, la prière traditionnelle, classique, c'est quand on prie pour un malade. Et d'ailleurs, vous vous rappelez du verset Amar Hashem Ufatil. La prière, c'est de demander la guérison. Nous nous verrons peut-être pourquoi à propos d'autres textes. Alors, l'exemple classique qui est donné est le suivant. On veut prier pour un malade et on se trompe de nom. Au lieu de dire le nom de celui pour qui on prie, on a dit un autre nom. Bon. Ça, c'est l'exemple que vous entendrez la plupart du temps. C'est la raison pour laquelle, quand on demande une prière pour un malade, celui qui doit prier demande très exactement le nom. Vous avez remarqué cela, peut-être. Mais tout simplement, en élargissant le principe, celui qui est en train de prier, même qui fait la prière classique, la prière officielle, la Amida du Shmoné Esré dans le Vesak Neset, et il se trompe, pour quelque raison que ce soit, il y a un mot à la place d'un autre, une prononciation différente, il s'est trompé de Shuva, de ligne dans le texte, c'est un mauvais signe. Oui, une explication fondamentale qu'il faut d'abord retenir, comment quelqu'un entreprend de prier et se trompe, c'est-à-dire quelque chose qui tourne pas rond. Siman Ra Lo. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire, l'entreprise de la prière est une chose sérieuse. Elle omdin leit palel elamitor koved roche, vous rappelez ? Et alors, il est devant Dieu pour prier et il se trompe, c'est qu'il ne fait pas attention à ce qu'il fait. Et s'il ne fait pas attention à ce qu'il fait, c'est qu'il y a un problème. Donc, siman ralo, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'explication la plus simple. C'est clair ? Bon. Mais la Mishnah va aller beaucoup plus loin. Et de la manière suivante, je prends tout de suite dans la Gemara. Amrou alav al Rabbi Hanina ben Dosa. On a enseigné au nom de Rabbi Hanina ben Dosa, non, au sujet de Rabbi Hanina ben Dosa, Shayam itpalel al acholim, il priait pour les malades, veomer, et il disait, Zechai vezemet, celui-là vivra, celui-là mourra. Amroulo, on lui a demandé, Minaïn atayodea, d'où tu le sais? Amalaem, il a répondu, si ma prière est aisée dans ma bouche, c'est-à-dire si je ne me trompe pas, si la prière se formule aisément, facilement, alors je sais que sa prière est exaucée. Je reviendrai sur cette définition de Mekoubal. Et sinon, ça veut dire si je n'arrive pas à prier aisément, alors je sais que sa prière est déchirée, littéralement, mais tout refait. Qu'il est déchiré, c'est-à-dire qu'il est repoussé. C'est-à-dire que dans la manière dont celui qui prie, il y a l'exaucement qui est indiqué. Si la prière est aisée, alors c'est le signe que la prière est acceptée. Si la prière n'est pas aisée, c'est le signe qu'elle est refusée. Vous vous rappelez d'ailleurs, vous pouvez rattacher cela, nous avons fait l'étude la dernière fois du premier verset qui introduit le Shmoné Esré. Adonai, sefata tiftar, ou fi ani teilatecha. C'est-à-dire, si c'est toi qui ouvre ma bouche, alors, je pourrais dire ta louange. Mais le chidouche, ça veut dire, là, on est tranquille. Si c'est Dieu qui me fait parler, alors je sais que la prière est exaucée. Mais c'est à ce propos, précisément, que la Gemara pose la question. Mais naha lemile, d'où savons-nous cela? D'où pouvons-nous apprendre cela? C'est-à-dire que celui qui prie sans se tromper, c'est un signe qu'il est exaucé. Celui qui se trompe, c'est un signe qu'il n'est pas exaucé. Vous voyez le dépassement de sens? La première définition de Siman Ra'lo, c'est un mauvais signe pour lui, que j'ai donné tout à l'heure, est une explication purement empirique, enfin déceptive. C'est le signe qu'il y a un désordre. Mais la Mishnah donne une deuxième explication, c'est un signe d'autre chose. C'est le signe de l'exaucement ou du non-exaucement. Et alors la Gemara demande, pouvons-nous nous appuyer sur un verset pour savoir cela? Pourquoi? Quelle est la difficulté? Parce qu'il semble qu'il y ait là une sorte de mécanisme magique. C'est-à-dire, si la formule est dite de façon exacte, alors il y a la réponse. Et si la formule n'est pas dite de façon exacte, il n'y a pas la réponse, ça nous renvoie à une sorte d'automatisme magique. Alors c'est pourquoi la Gemara a besoin d'un verset pour authentifier cette consigne, si j'ose dire, ou ce principe. C'est-à-dire le fait que s'il y a eu erreur dans la formulation de la prière, c'est un mauvais signe et ça veut dire le signe du non-exaucement. Et le verset le dit très clairement. Borenif Fataim, celui qui crée l'expression, Niv, l'expression. Vous avez aussi Tevoua en hébreu. Tevoua veut dire la récolte. Oui. Niv, c'est Siach, veut dire aussi le. Siach veut dire la végétation, et Siach veut dire la conversation. C'est-à-dire l'expression des lèvres. Shalom, shalom, rachou, et la karov, amarachim, en fait. Là, vous voyez, relation entre Niv, Nevoua et Tfila. J'en arrive un peu plus loin dans la Gemara, où nous avons le Maasé suivant. Maasé Shechala Beno Shel Rabban Gamliel. Et il me semble que je vous ai lu cette Gemara la dernière fois.
Mais oui, la dernière fois, je crois me rappeler que tu avais dit, si on s'est trompé quand même, c'est peut-être une erreur de déclaration d'amour, c'est quelque chose de très joli.
Ah bon? oui, il me semble que je vous l'ai lu, mais peut-être pour un autre objet. Alors, je la relis quand même. Maasé Shechala Beno Shel Rabban Gamliel, non, je me souviens pourquoi je vous l'avais cité. Le fils de Rabban Gamliel était tombé malade. Shigesh Shnei Talmidei Chachamim Etzel Rabbi Chanina Ben Dosa, il a envoyé deux élèves chez Rabbi Chanina Ben Dosa, Levakesh Chalav Chachamim, pour prier pour lui. Kivan Shira Otam, lorsque Rabbi Chanina Ben Dosa a vu les deux élèves de Rabban Gamliel, Alal Aliyah Bikesh Chalav Chachamim. Il est monté sur, littéralement ça veut dire sur l'étage. Vous savez, ils habitaient des maisons avec escalier intérieur. La Aliyah, c'est la balustrade, comme on dit.
En duplex.
Oui. C'est-à-dire, il est monté là où il y avait sa couche. Parce que pour prier, on s'asseyait sur le lit et on mettait la tête entre les genoux. Ubikesh Abraham. Biridato Amar Laem. Lorsqu'il est descendu donc de la balustrade, il leur a dit Lechou, Shechalatsatu Chama, la fièvre l'a quitté. C'est-à-dire, avant que les élèves ne lui disent prie pour le fils de Rabban Gamliel, il est descendu de sa prière. Littéralement, et il leur a dit, ça y est, il est guéri. Amroulo, Vechina Viata. Ils lui ont dit, mais est-ce que tu es prophète? Où est la relation? Regardez bien, le pshat de la Gemara peut être interprété de façon beaucoup plus immédiate. Comment sais-tu qu'il est guéri? Est-ce que tu es prophète pour savoir qu'il est guéri? En réalité, plus profondément, et je vais vous parler de la profondeur, plus profondément, c'est pendant qu'il priait, il a su dans sa prière s'il était exaucé ou pas. Est-ce que c'est bien clair? Parce que c'est cela qu'il faut comprendre. La capacité, l'expérience de la prière et l'expérience de la prophétie, c'est la même. Et il faudrait ajouter dans un sens inverse, mais ce n'est même pas nécessaire. C'est la même expérience. C'est-à-dire qu'il y a relation entre l'homme et Dieu à travers la parole, à travers la voix. Alors il répond à Marlaen, « Lo navi anochi, velo ben navi anochi » Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, et là, car mekoublani. Mais voici ce que j'ai reçu par tradition. Vous voyez déjà, Kabbalah. Vous vous rappelez dans la Mishnah, mekoubal. Je reviendrai là tout à l'heure. Im shegura filati befi, si ma prière est aisée à ma bouche, et c'est vrai aussi pour l'étude. Vous remarquerez, lorsque on peut s'exprimer facilement dans l'étude, c'est le signe qu'on comprend plus. J'allais dire quelque chose de banal, mais enfin, c'est ça. Qui est-ce qui disait ça comme ça, en français?
Non, clairement, c'est non clairement.
Ce qui se conçoit bien, c'est non clairement. Okay. Mais il y a un verset beaucoup plus profond, encore profond, c'est « He manti ki adaber ».« He manti ki adaber ». Vous entendez en hébreu ?« He manti ki adaber ». Donc, en français, c'est intraduisible.
Ki adaber ou adaber ?
Ki adaber.
De quel âge ?
Ça veut dire, quand est-ce que j'ai foi, c'est quand je parle. Bon, mais c'est vraiment très important.
Je ne sais pas, je pense, parce
que... Hémantik yadabé. C'est-à-dire le fait d'être capable d'exprimer... Bon. Donc, im shigurat filati befi yoderani shumekubal, ve im lav yoderani shumetura. Bon, plusieurs choses. Ça veut dire que Nous avons là la définition de ce que c'est qu'être mekoubal. Vous savez qu'en général, on traduit être mekoubal par être kabbaliste, mekoubal. Et dans le sens de celui qui reçoit une tradition. Alors il faudrait dire mekabel et pas mekoubal. Et la différence des termes ? Mekoubal, ça veut dire celui qui est lui-même reçu. Et vous avez le sens clair ici. Celui dont la prière est acceptée, c'est ça un mekoubal. Est-ce que c'est clair ?
C'est facile. C'est normal, quoi.
Oui, c'est le sens strict, mekoubal. Mais c'est le terme qu'on emploie pour dire un kabbaliste. Mais quel sens on attribue à ce terme pour dire un kabbaliste ? Kabbalah, ça veut dire une tradition reçue. Masora, c'est une tradition transmise. Kabbalah, c'est une tradition reçue. Alors on dirait d'un mekoubal, c'est celui qui a reçu une tradition. Mais ici, nous avons un sens beaucoup plus clair, beaucoup plus précis dans la Mishnah déjà. Un mekoubal, c'est celui dont la prière est exaucée. Donc qu'est-ce que c'est que la Kabbalah ? C'est la science de la tefila.
Oui, parce que c'est absolument défendre l'être de l'autre, puisqu'il faut être reçu. Donc c'est vraiment
ça dépend vraiment de votre esprit. C'est-à-dire le sens strict du mot. Yodéani, c'est Umekubal. Je sais qu'il est reçu, lui. Rachid explique, vous verrez tout de suite dans le commentaire, chez Filato Mekubelet. C'est-à-dire que sa prière est acceptée. Mais là, nous avons une indication très importante. C'est que l'objectif de la Kabbalah, c'est pas n'importe quelle stratégie mystique dont vous pourrez entendre parler dans les livres de vulgarisation. L'objectif de la Kabbalah, c'est la tefila. Un mekoubal, c'est celui qui sait prier. Voilà, à la limite. Donc, c'est qu'il y a une chokma de cela. Cette chokma, c'est chokma ta Kabbalah. Dans le sens très strict, chokma ta Kabbalah, ça veut dire la sagesse de la réception. C'est-à-dire comment recevoir ce que Dieu donne. Mais c'est exactement la définition de la tefila. Dans la relation de définition du rite de la demande. Kabbalah, ça veut dire Chokhmah ta Kabbalah, ça veut dire donc la Chokhmah de la Kabbalah, de la réception de l'être. C'est relié donc à la Tfila. Vous avez une autre Gemara d'ailleurs dans un autre chapitre qui nous dit que le texte de Tfilot que nous avons dans le Sidour a été institué par Anshei Knesset Agdola, Umehem Kama Neviim, et parmi eux les derniers des prophètes. Le texte dit. Un certain nombre de prophètes, les derniers des prophètes qu'il y avait. Ce sont les prophètes qui sont les priants, si j'ose dire, et inversement. L'expérience de la prière est de l'ordre de l'expérience de la prophétie. Vous voyez donc, nous avons suffisamment de termes pour éclairer cela. À propos de la profondeur, je ne me souviens pas si nous l'avions analysé à propos des Mishnayot précédents. Je voulais vous citer un enseignement du Rav Kook à ce sujet. Essayons de faire une analyse philosophique simple de la notion de profondeur. Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est profond ? Profond, ça ne veut pas dire sans fond.
Non, mais Omek.
Une idée. Omek, okay. Et Omek, ça se relie à Keter. Mais et une idée, une valeur, une notion profonde. Aimer, ça veut dire vrai.
Non, mais essayez d'atteindre la vérité.
Vous voyez que nous sommes gênés par l'imprécision du vocabulaire. Voilà, ça c'est caché. Nista. Mais omek. C'est très exactement le mot en hébreu. Omek. Et chaque valeur a sa amkut. Chaque valeur a son omek. C'est une notion de perspective. Mais de façon un peu plus claire. Bien, il nous a donné une fois un enseignement qui se relie à notre Mishnah. Je voudrais vous citer. Et d'abord la formule elle-même, qui est facile à comprendre intellectuellement, on dit de quelque chose qui est à la fois proche et loin, qu'il est profond. Quand c'est à la fois accessible et inaccessible, simultanément. C'est ça la profondeur, c'est ça le romec. Parce que vous vous rappelez que dans notre synthèse de l'étude précédente, nous avons vu qu'en fin de compte, la Mishnah recherchait la définition de l'expérience affective qui doit accompagner le sérieux de la prière. Vous vous rappelez ? Qu'est-ce que c'est que le Kored Rosh ? Plusieurs versions ont été proposées, plusieurs notions ont été proposées, on arrive finalement à Simcha et Yira, Vous rappelez de cela. Joie et crainte en même temps. Bien, c'est déjà, d'une certaine manière, une expérience de la profondeur. Alors, voici comment le Rav l'explique, ensuite je rattache au sujet. Il dit, lorsque, si vous voulez, en termes métaphysiques, c'est la fameuse antinomie transcendance immanente. La relation à Dieu est simultanément une relation de transcendance inaccessible et d'immanence accessible. Donc, c'est une relation de profondeur. Au moment même où j'expérimente l'accessibilité, j'expérimente l'inaccessibilité. Et inversement, au moment où j'expérimente l'inaccessibilité, à ce moment même, j'expérimente l'accessibilité. Est-ce que c'est clair? Okay. Et M. Neher a donné à Jérusalem une étude très importante sur le Adon Olam, qui paraîtra peut-être un jour assez récemment. Vous n'avez qu'à reprendre le texte de Adon Olam, qui accompagne d'ailleurs le début et la fin de la Tula. Adon Olam, Asher Malar, Beterem Kol Yetzir Nivra, l'inaccessible absolu, Vehu Eli Vechai Goali, l'accessibilité la plus absolue. Vous voyez cette dialectique. Je vous donnerai un autre enseignement qui nous vient de M. Dormain à ce sujet, mais voilà d'abord comment le Rav l'explique. Lorsque je suis occupé à expérimenter l'accessibilité, alors il y a joie. Et l'expérience affective qui sous-tend la joie, c'est Ahava. Lorsque je suis occupé à expérimenter l'inaccessibilité, alors il y a crainte. Et ça, c'est Ira. Vous voyez que nous sommes tout à fait dans le sujet que nous avons étudié. Eildu et Hashem de Sifra, Tira. Eildu et Hashem de Ira, de Gilou Bil Adas, c'est l'autre verset de Sifra. Eildu et Hashem de Ira, c'est-à-dire simultanément, Simcha et Ira. Est-ce que c'est clair en français? Donc c'est une expérience de l'ordre de la profondeur. C'est précisément ce verset qui est la base de cette analyse. Shalom, shalom, la rachok ve la karo. À celui qui est loin et à celui qui est près. Ici, il s'agit de l'homme. L'homme se connaît comme loin de Dieu et près de Dieu. Loin, alors il y a Ira. Près, il y a, j'ai inversé l'analyse, mais vous avez compris le près, il y a Simcha. Oui, nous sommes toujours dans la catégorie de la complémentarité des valeurs. C'est la perspective de profondeur. Gemara qui dit, nous trouvons de Akadosh Baruch Hu, du vrai Dieu, loin et proche. Nous trouvons des idoles loin et proche. Il a été dit de Dieu qu'il est loin et proche, il a été dit des idoles qui sont loin et proches. Les idoles comment? Eh bien, l'idole est très proche. Je me fabrique une statue et je suis devant. Et pourtant, j'ai beau lui parler, elle est très loin. Tandis que pour Dieu, c'est l'inverse. Il est très loin. Adon Olam, Asher Malar, Beterem Kol et Tirniwa. Il suffit que je lui parle, il est très proche. Vous voyez la différence. C'est la Rachok et la Karov. C'est l'inverse. Donc nous avons l'affirmation de l'unité dans l'expérience simultanée de cette transcendance et immanence, accessibilité, inaccessibilité. Voici comment de façon traditionnelle, c'est le vocabulaire philosophique, mais comment de façon traditionnelle, le M. Gordon vous l'avait expliqué. Nous disons de Dieu Hakadosh Baruch Hu. Je vous citerai ça d'ailleurs au séminaire sur la Kedusha. Hakadosh Baruch Hu. Kadosh, c'est la relation de transcendance absolue. Kadosh, ça veut dire inaccessible. Baruch, c'est accessible. Vous comprenez pourquoi? Kadosh, c'est la séparation. Là, c'est le caractère inaccessible de la sainteté ultime, Kadosh. Baruch, c'est l'influx de bénédiction qui me vient du Kadosh. A Kadosh, Baruch. C'est celui qui est Kadosh qui est le Baruch. Nous retrouvons donc le même problème de transcendance et immanence, mais c'est ça dans un vocabulaire beaucoup plus juif, enfin traditionnel. Bien, donc ça c'était pour...
Il y a un lien entre la notion de Emek, profond.
Emek, quel? Ah, Emek, la vallée.
Ah, la profondeur profond. Emek, c'est profond.
Oui.
Et l'idée de Galgout. Je pense au... Il y a encore dans la Bereshit, chapitre 42, le deuxième verset, voyant la côté de Shechar de Israël, et il dit Redou, Shama. Rachid fait remarquer qu'il n'a pas dit Lokou, mais Redou, et que Redou est exactement la durée des 210 ans derrière le Redou. Or, c'est quand même qui marque un PMS.
Ça fait 210 ? Tu viens de trouver ça ou bien ?
Oui, oui. Quand tu parlais, je me suis demandé si ça avait un lien.
Ah, ça, je note.
Parce qu'on peut dire aussi que dans la galoute, il y a à la fois, n'est-ce pas, le fait que on est dans cette double tension.
Alors, regarde.
Il y a prends, qui a...
Voilà, prends dans le récit, dans Vayeshev, début de Vayeshev. Il y a un Rashi là-bas qui se relie un peu.
Donc,
je vous
donne
un peu. Non, un peu plus loin. Je vais lire le verset. Voilà, sur le verset 14. Lorsque Jacob convoque Joseph pour l'envoyer en Galoute, justement, il a dit ceci, « Vayo Merlo ». Lorsque Jacob s'adresse à Joseph, il lui dit, va, les frères sont à Shrem, ils complotent contre Joseph déjà là-bas, et Jacob envoie Joseph à Shrem avec la mission suivante, va, regarde quel est l'état de la paix de tes frères et la paix du troupeau, va chez Vini Davar, ramène-moi une parole, un message, et il l'envoya de la vallée de Hebron. Voyavo Shrema, il arriva à Shrem. Alors Rachid dit tout de suite, qu'est-ce que tu dis, toi, le verset, que Hebron est dans la vallée, Hebron est dans la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire, mais Hebron, regardez Rachid, du verset 14. Hein? Vahalo Hebron Bahar, n'est-ce pas que Hebron est dans la montagne, Shenema Vayalu Banege Vayavo al Hebron. D'après un verset de Bemidbar, chapitre 13, ils ont monté le Negev, et ils ont monté la Negev, du Negev à Hebron, il faut monter dans la montagne. D'ailleurs, il suffit maintenant d'y aller en chéroute pour se rendre compte que c'est comme ça. Et là, mais, Rashi cite le Bereshit Rabba, mais Asa Emuka Shelotot Sadik Akabur Vechebron. Voilà ce que ça veut dire. Il l'a envoyé à partir de la pensée profonde de ce Sadik qui était enterré à Hebron. Qui est Abraham? Quelle est la pensée profonde? C'est la pensée de la Galoute. לקיים מה שנאמר לאברהם בן הבתרים, כי גר יהיה זרעך ועדת ולי. Bon, ça, c'est certainement relié à ta question, mais je ne vois pas encore le lien, c'est-à-dire le lien formel est clair, pas tous les mots sont là. Mais en quoi, c'est-à-dire pourquoi le Midrash a employé cette expression, Etsa Emuka, Amuka, la pensée profonde d'Abraham concernant qui guérit yéza racha la galoute, à propos de la galoute. Tu dis, ouais, bon, on réfléchira là-dessus, mais en tout cas, ça, c'est un vrai chidouche.
Et puis, il y a un galote, c'est
parce qu'il a dit
que
le juge qui est en train
d'étudier un
sexe
avec
son frère, c'est un galote. Non, mais pourquoi ça s'appelle Amok? Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi c'est Amok? Ce que je ne dirais pas, mais peut-être tu le dirais toi, c'est que. L'expérience de la galoute, c'est l'apprentissage de la profondeur.
Non, je pensais qu'il y a l'ambiguïté dans la galoute. Il y a le risque de la fin inaccessible et il y a.
C'est drache, mais il y a certainement un lien plus. En fait, tu as posé un vrai problème, ça n'y a pas de doute.